Acte 2. L'émission d'entrevue de l'association du passage à l'acte.
Quand on parle de plantes sauvages comestibles aux urbains que nous sommes, il y a un émerveillement enfantin. Il y aurait sous nos pieds, aussi intelligent que notre tête et parfois bête, de la salade. Oui, de la salade, qui n'a pas besoin d'être repiquée, ni arrosée, ni même protégée, de la salade et même des légumes. Mais très vite, l'émerveillement fait place à la méfiance. On sent se réveiller en soi le protecteur parent apeuré. Ne mets pas ça dans ta bouche, c'est pas bon, tu ne sais pas où ça a traîné et c'est peut-être toxique. Et finalement, bien souvent, on en reste là. Alors que l'utilisation du matériel de base pour la reconnaissance de quelques plantes, avec un support photo par exemple, n'est pas très compliquée. Et les plantes vraiment toxiques existent. Il vaut mieux être sûr avant de manger quoi que ce soit, mais elles sont loin d'être majoritaires sous les latitudes européennes. Alors, nous nous sommes penchés sur la question, et nous nous sommes dit qu'il y avait matière à découverte, qu'il y aurait peut-être même matière à grande découverte. Nous tâcherons, au cours de l'année qui vient, de trouver une personne par saison pour nous aider à découvrir les sauvages comestibles de ladite saison. Cette fois-ci, nous partons sur les chemins avec Timothée Janota, qui anime des sorties sur ce thème dans la région de Genève. L'enregistrement a lieu fin septembre et les plantes sont encore nombreuses et verdoyantes. Profitons-en. Timothée, bonjour.
Bonjour Floem.
Alors là, on est en bord d'un chemin en Haute-Savoie et on est arrêté au bord de... Il y a plein de mauvaises herbes, c'est ça ?
On ne parle pas vraiment de mauvaises herbes, mais il n'y a que des plantes dont on ne connaît pas encore l'utilité.
Toi, tu es un spécialiste des plantes médicinales, etc., plantes vertes diverses et variées. Et nous, on n'y connaît pas grand-chose. Est-ce que tu aurais, avant de commencer, des conseils à donner aux gens qui se lancent dans la découverte des plantes sauvages, comestibles ou autrement utiles et qui auraient envie d'aller cueillir ?
Je trouve pour si on est vraiment débutant, c'est intéressant de commencer par un stage avec une personne qui s'y connaît. Ça peut être un ami ou des stages organisés pour aussi se rassurer et avoir une première approche de cet univers. Ensuite, je dirais pour les lieux de récolte, on va éviter les bords de routes trop fréquentés pour des raisons évidentes de pollution. On évite aussi les champs qui semblent être cultivés pour tout ce qui est pesticides qui sont assez volatiles. Et on va éviter les zones qui semblent aussi polluées par différentes sources. Ça peut être proche de déchetteries ou ce genre d'endroits qui risquent d'être contaminés. Et donc les plantes absorberont ces différents types de pollution. Et en cueillant des plantes sauvages, on essaye de manger des plantes saines.
La première question qui me vient, c'est celle que tout le monde renvoie quand on prend des plantes sauvages, et alors les parasites et les renards qui font pipi sur les plantes, avec l'échinococcose là.
L'échinococcose ?
Oui, voilà.
On parle souvent de l'échinococcose. Donc c'est une maladie qui peut être transmise par les renards. Donc déjà, c'est uniquement par les selles et pas par l'urine.
Donc il faut qu'ils fassent caca dessus, dit gentiment.
En gros, c'est ça. Il faut qu'ils aient fait caca sur la plante. Ce qui limite déjà quelque part les risques. C'est quelque chose de beaucoup plus visible, autant par les yeux que par l'odeur parfois, sur les plantes. Donc ça limite déjà les risques. C'est au final, je pense que le risque est à prendre en considération, qu'il ne passe pas complètement à la trappe dans notre esprit, disons. Mais voilà, j'estime le risque négligeable, étant donné que ça doit être un renard qui a fait ses selles sur la plante. Un renard qui, en plus, doit être infecté par ce parasite. Ce n'est pas le cas de tous les renards. Les risques sont relativement modérés, d'autant que si on y réfléchit bien, on a à peu près autant de risques dans un potager. Parce que les renards vont souvent se balader parmi les légumes dans nos potagers. Ce qu'on sait aussi moins, c'est que les personnes qui ont des chiens sont potentiellement beaucoup plus infectées que les personnes qui ramassent des plantes sauvages, parce que les chiens peuvent être porteurs aussi de ce parasite. Et en ayant des chiens, on est beaucoup plus en contact avec ce parasite que si on va simplement ramasser des plantes sauvages.
Est-ce que tu as d'autres conseils à donner à quelqu'un qui va avec son panier ramasser des plantes sauvages comme ça?
Éviter les sacs en plastique, préférer les sacs en papier ou en tissu ou simplement le panier pour éviter la condensation et disons une fermentation des plantes ou simplement leur flétrissement qui est visuellement pas très agréable. Prélever uniquement aussi la quantité dont on a besoin, pas la peine de cueillir trop. Cueillir les plantes quand elles sont en quantité suffisamment abondante. On va éviter de, si on n'a qu'un seul exemplaire, disons, de la plante, on va plutôt le laisser en place, lui permettre de se reproduire et on reviendra peut-être dans 2 ou 3 années en espérant qu'il ait essaimé et qu'il soit ressemé plus loin et qu'il y en ait suffisamment. Donc plutôt cueillir quand il y a une abondance de plantes, uniquement la quantité dont on a besoin et éviter de trop piétiner, de trop saccager, détruire les alentours de notre endroit de cueillette. Donc faire attention où on met les pieds.
Ça se nettoie des plantes sauvages ramassées, et si oui, comment?
Bah justement, pour les risques d'échinococcose dont on parlait tout à l'heure, le seul moyen de le détruire, de la détruire, c'est une cuisson relativement prolongée. Après, le fait de nettoyer les plantes, ça peut permettre de, si on ramasse des plantes qui ont des pucerons ou différents petits insectes, on peut éventuellement les faire tremper dans de l'eau vinaigrée. Moi, personnellement, je ne les nettoie pas. Après, certaines personnes préfèrent les nettoyer, ce que je peux comprendre. Donc, à chacun un peu de faire à sa sauce. Sachant aussi que les plantes contiennent beaucoup de bactéries et de petites choses très intéressantes pour notre organisme. Et le fait de les nettoyer, on va perdre une partie de tout ça. Donc, moi aussi, pour cette raison, je préfère, d'une manière générale, si elles sont pas boueuses et pas pleines d'insectes, j'évite de les nettoyer.
On y va, on part en balade?
Partons en balade.
Ça, je reconnais, ça a l'air d'être de l'ortie. C'est de l'ortie?
Exactement. Bon, c'est une plante déjà que beaucoup de personnes connaissent. Elle a des feuilles un petit peu qu'on pourrait qualifier en forme de gouttes dentelées, découpées avec des petites dents tout le long, d'un vert assez relativement sombre, vert presque un peu grisâtre, on pourrait qualifier, sachant que ça peut varier aussi en fonction de l'âge de la plante. Au niveau de la hauteur, c'est une plante qui peut pousser, qui disons peut être une vingtaine de centimètres suivant les conditions. Des fois, elle peut faire même plus d'un mètre, 1,50 m, surtout quand elle monte en graines plus tard dans la saison. Pour ce qui est de la récolte de l'ortie, on peut préférer les gants pour éviter de se piquer. Surtout si on en ramasse des grandes quantités, c'est plus agréable, on a moins besoin d'y faire attention. Tout en sachant que les poils urticants de l'ortie sont toujours dirigés vers l'extérieur. Donc si on la prend dans le sens du poil, elle ne nous piquera pas. C'est assez commode si on veut en récolter quelques-unes ou si on n'a pas trop peur de se piquer les doigts, en la prenant du bas vers le haut, dans le sens du poil, elle nous piquera pas ou très peu. Il y a toujours quelques petites piqûres qui peuvent arriver au bout des doigts, mais rien de bien grave.
Vous êtes prêt à faire l'expérience devant nous?
Complètement, oui.
Ah bah alors allons-y.
Et une fois qu'on l'a prise dans le sens du poil, on peut même la brosser dans le sens du poil. Elle pique absolument pas.
Je suis témoin, monsieur Janota est en train tout simplement de caresser des feuilles d'ortie. J'ai l'impression d'être au cirque. Ok, et maintenant qu'on l'a cueilli, qu'est-ce qu'on fait avec?
Donc ce qu'on va cueillir déjà dans l'ortie, comme dans la plupart des plantes, on va cueillir les parties jeunes. Parfois, on peut voir une différence de couleur, mais ça va être les, disons, 3, 4 étages de feuilles supérieures qui sont au sommet de la plante, qui vont être les parties les plus tendres, les meilleures. Après, si on cuit la plante, on peut aussi cueillir des parties un peu plus vieilles qui seront assouplies par la cuisson et donc ne poseront pas de problème. On évite aussi, ça c'est valable pour toutes les plantes, s'il y a des plantes malades, des fois on voit qu'elles ont des taches ou ce genre de choses, là on va éviter de les cueillir. Et suivant les plantes, typiquement là on est sur l'ortie, on va plutôt la cueillir quand elle n'est pas encore en graines ni en fleurs. Donc c'est souvent plutôt au printemps, sauf si l'endroit où elle pousse a été fauché, ça refait des nouvelles pousses qui ne montent pas tout de suite en graines. Donc c'est suivant où on se promène ou si on en a dans le jardin et qu'on fauche régulièrement, on peut en cueillir sur une période plus longue. Et donc voilà, on va récolter les sommités. ce qu'on appelle les sommités. Donc c'est, comme je disais, c'est 3-4 étages de feuilles tout en haut de la plante. L'ortie, le plus connu, c'est la soupe d'ortie. C'est souvent un mélange, une base de pommes de terre dans laquelle on va rajouter de l'ortie. On peut aussi la cuisiner de tout un tas de façons, et ça c'est valable pour à peu près toutes les plantes sauvages. On peut en fait l'utiliser comme un épinard. On peut l'utiliser dans des quiches, dans des cakes, on peut les faire cuire vapeur, cuire à l'eau, sauter à la poêle, en faire des gratins. Après, ça a un peu de limite que les recettes que vous avez et votre imagination.
D'accord, donc ça peut venir enrichir quasiment toutes les recettes où il y a du vert dedans.
Exactement. On peut même en faire du pesto, sachant qu'il faut le plutôt lâcher très finement. J'ai fait l'expérience de lâcher au couteau, pas suffisamment finement. Ça, il nous rappelle son pouvoir urticant sur le palais, c'est pas très agréable. Donc pour un pesto d'ortie, je conseillerais plutôt le mixeur. Pour les autres plantes qui sont pas urticantes, on peut y aller au couteau sans aucun problème. On pourrait parler, je sais pas si ça se dit, mais de panacée nutritionnelle avec l'ortie. C'est une plante qui est extrêmement riche en fer, en magnésium, en protéines, en calcium, en vitamine C, et j'en passe. Je dirais que si on devait en consommer qu'une seule, ce serait celle-là, parce qu'elle nous apporte à peu près tout ce dont le corps peut avoir besoin. Et c'est assez commode parce qu'on quasiment tout le monde la connaît et elle est assez facile à reconnaître. Et on la trouve et en plus on la trouve en abondance.
Ok, merci, continuons. Alors ça a l'air d'être aussi une grande star, parce que même ça, j'en ai dans mon jardin, et je le connais bien, enfin, ça me dit quelque chose quand même.
Alors là, on est sur le plantain lancéolé, qui est une plante très fréquente dans les jardins et les prairies. Pour la reconnaître, elle est un peu en forme de, elle est en forme de lance. C'est pour ça qu'on l'appelle lancéolée, donc plutôt, disons, effilée et un peu en pointe avec des nervures. La particularité, c'est qu'elle a les nervures parallèles. Elle pousse plutôt proche du sol. Bien que suivant les conditions, elle peut atteindre parfois des dimensions assez impressionnantes. Mais disons qu'en général, les feuilles font une quinzaine de centimètres, je dirais. Le plantain lancéolé, donc dans nos régions, il y a trois principales variétés de plantain. Le lancéolé, on est en train actuellement de regarder. Le majeur et le moyen. Le moyen étant celui que je préfère et le moins fréquent malheureusement.
Et du coup, le lancéolé, c'est quoi les différences visuelles?
Alors donc le lancéolé est en forme un petit peu de pointe assez effilée. Donc la feuille doit faire en général 2 cm de large à peu près sur, je disais, une quinzaine de centimètres de long, juste pour donner une proportion. Le plantain majeur va avoir une feuille beaucoup plus ronde avec une petite, comme ce qu'on appelle le pétiole, une espèce de tige qui retient la feuille. Et lui va être en général plus proche du sol. Enfin, le moyen, je disais celui que je préfère au niveau gustatif, est lui complètement plaqué au sol. Tous les trois ont la particularité d'avoir les nervures parallèles.
Et qu'est-ce qu'on en fait alors du coup?
Alors, le plantain, c'est déjà un excellent remède contre la plante qu'on a vue juste avant, l'ortie. On peut appliquer le plantain sur une brûlure d'ortie pour calmer la douleur.
Tu le poses comme ça?
Non, alors l'idée, c'est d'en extraire le suc. Donc on peut soit broyer une feuille de plantain entre les doigts avec la main pour en extraire le jus et ensuite l'appliquer sur la brûlure d'ortie. Ou une autre technique, c'est de le mâcher. Le mâcher un petit peu et ça va permettre de casser les fibres qui contiennent le suc et on peut ensuite l'appliquer sur les brûlures d'ortie, je disais, mais aussi sur différentes piqûres d'insectes, que ce soit moustiques, abeilles, guêpes. Ça peut aussi être intéressant sur différentes petites écorchures ou petites coupures. Et en plus de tout ça, il se mange.
Ah oui, c'est bien, ça fait multitâche.
Souvent, j'ai une préférence pour manger toutes ces plantes crues, sachant qu'elles sont toutes extrêmement riches en vitamines et en nutriments. Donc, le plantain, assez facilement, je le découpe, mixé avec d'autres plantes. Ça, c'est quelque chose que je fais fréquemment dans les salades. C'est un petit panel de plantes que j'ai ramassé au cours d'une promenade ou simplement dans mon jardin. Le tout grossièrement haché et ajouté dans une salade. Les proportions, c'est en fonction des goûts. Moi, j'aime bien moitié-moitié pour quand même avoir bien sentir le goût de toutes ces plantes.
Moitié-moitié de quoi ?
Partir sur une base de salades cultivées, au choix. L'autre moitié de plantes sauvages diverses et variées.
Mais c'est pas un peu fort comme goût ? Parce que quand tu me dis plantain ou ortie, enfin, je sais pas, les orties, ça se mange en salade, non ?
On peut. Le pouvoir urticant est théoriquement cassé par la vinaigrette et tout ça. Moi, en salade, je le consomme pas ou extrêmement peu. Je préfère le cuire ou le hacher très menu. Au niveau du goût, c'est vrai que c'est assez fort. C'est pour, enfin, moi, je suis plutôt moitié-moitié, aussi pour bien sentir les saveurs. Après, si on est, on peut être un peu plus frileux au début et commencer chacun à son rythme et augmenter progressivement les doses. À voir, c'est vraiment une histoire de goût.
Ouais, donc en fait, tu me parlais de vinaigrette il y a un moment, une seconde. Il faut aussi envisager la salade composée, rajouter des fruits, des trucs, des machins comme ça pour changer un peu le goût. Enfin, je sais pas, ça se trouve, c'est délicieux, je sais pas.
Non, bah, une salade verte, on met toujours une vinaigrette, enfin, en tout cas personnellement. Je dirais que ça, je sais pas, c'est peut-être plus une habitude qu'on a, qui est pas forcément, je sais pas sur quoi elle est fondée, mais peut-être pour mieux faire passer les aliments. Du fait de l'huile, ça je saurais pas trop l'expliquer. Mais au niveau du goût, le plantain a plutôt un petit goût de champignon qui est vraiment pas désagréable, voire même très agréable, surtout sur le, comme disait le plantain moyen, qui a, je trouve, un goût plus exacerbé de champignons. Le mieux dans les plantains aussi, c'est ce qu'on appelle les boutons floraux, les petits boutons qui sont pas encore passés en fleurs ni en graines, qui sont encore tout jeunes, prêts à éclore. Qui vont être plutôt noirs pour le plantain lancéolé, plutôt verts pour le plantain moyen ou le plantain majeur, et qui ont l'avantage aussi d'être un peu plus charnus par rapport à toutes les feuilles qui sont souvent présentes quand on consomme des plantes sauvages. Plus charnus et vraiment avec un goût de champignon assez prononcé et très intéressant à intégrer dans les salades ou dans des cakes, dans différentes préparations. Donc les saveurs sont... On trouve un petit peu de tout dans la nature. En général, quand on parle de plantes comestibles, on parle plutôt de plantes qui ont des saveurs bonnes, que ce soit en grande quantité ou d'autres plus en condimentaire. Après, il y a aussi beaucoup de plantes qui vont être comestibles d'un point de vue physiologique, mais qui vont être extrêmement amères ou avoir des goûts désagréables, auquel cas on ne parle pas, en général, pas de plantes comestibles, même si elles le sont dans l'absolu.
D'accord. À côté du plantain, là, je vois qu'il y a une plante que je connais, ça s'appelle du trèfle, et il paraît que c'est comestible. C'est vrai ?
Alors, il y a un petit peu deux écoles sur le trèfle. Il y en a qui disent qu'il se mange, d'autres qui disent qu'il ne se mange pas. Moi, perso, je le mange pas particulièrement. Je préfère d'autres plantes de la même famille, à part les fleurs. Les fleurs de trèfle qui ont un petit goût sucré, comme toutes les fleurs, grâce au nectar qu'il contient. Et aussi pour l'aspect décoratif, qui est vraiment aussi une chouette approche avec les plantes sauvages. Tout ce qui est fleurs sauvages peut être vraiment très intéressant pour décorer les salades et mettre un peu de couleur et aussi faire découvrir à des personnes peut-être moins intéressées par cet univers.
Et d'autres plantes de la même famille, mis à part le trèfle, il y a quoi ?
C'est une grande famille. Le trèfle appartient à la même famille que les haricots, que les petits pois ou que le pois chiche. En sauvage, chez nous, on parle plus de la gesse ou de la vesse, en tout cas dans celle que je connais actuellement. Étant de la même famille que le petit pois, rappelle très clairement le goût du petit pois. Elles sont très intéressantes de ce point de vue-là dans les salades.
Et ça se reconnaît comment, une gesse ?
Alors, la gesse ou la vesse, les deux vont faire ce qu'on appelle des petites vrilles qui vont s'accrocher sur les plantes alentour pour essayer de se hisser à la lumière. Donc des petites vrilles, c'est comme des petits filaments qui vont s'entortiller autour de ses voisines. Ça peut être un bon moyen de les reconnaître. Ensuite, ça fait différentes petites tiges avec des petites feuilles le long de cette tige. Petites feuilles plutôt rondes, plutôt arrondies. Un peu plus en pointe pour la gesse. Et entre la différence entre la gesse et la vesse, pour ceux qui connaissent déjà, la vesse a la particularité d'avoir les nervures en V pour la vesse, c'est un petit moyen mnémotechnique, et la gesse a les nervures plutôt parallèles. C'est un bon moyen de différencier ces deux plantes qui se ressemblent de prime abord beaucoup.
Merci, on s'en fait une autre. Alors là, on est juste à côté d'une plate-bande de choux de chez un maraîcher et tu viens de prendre un truc qui visiblement n'est pas du chou.
Exactement. Là, on est tombé sur de l'épinard sauvage, en l'occurrence le chénopode blanc.
Moi, j'aurais dit du kénopode.
J'entends toujours les deux versions et du coup, de mon côté, j'alterne un petit peu entre les deux, entre kénopode et chénopode. Ça s'écrit chénopode.
Ok, au moins comme ça, on est fixé. Et du coup, alors, ce kénopode, il ressemble à quoi ? Alors que moi, si je dois le décrire, allez, tiens, je vais me lancer dans la tentative de description, on dirait, ça a des feuilles vertes, et non, mais peut-être que toi, tu décriras mieux.
Ça a des feuilles vertes, en effet, avec des petites dents, pas très marquées. En général, c'est plutôt des petites, ça ressemblerait plus à des petites ondulations. C'est une plante qui pousse en général sur des terres qui ont été retournées. J'en trouve beaucoup dans les chantiers. En général, c'est une plante qui aime bien les terres qui ont été retournées. Là, en l'occurrence, on est dans une plate-bande de choux sur laquelle on voit que la terre a été retournée récemment. Et ce chénopode blanc aime beaucoup ce genre de terrain. Donc là, on voit qu'il pousse en abondance au milieu des choux. Donc, c'est une plante qui pousse, qui peut facilement faire comme des petits arbustes. Est monté à 1,50 m suivant les conditions. Une particularité pour le reconnaître, c'est que sous ses feuilles, il a un petit perlage blanc qui s'effrite, disons, quand on y passe les doigts.
Ah, je vais essayer ça. Ah oui, c'est un peu comme du pain fariné.
Ah, on pourrait voir ça comme ça, ouais, comme une petite farine qui s'en va délicatement quand on y passe les doigts. Donc ça, sous les feuilles. On l'appelle aussi patte d'oie, ce qui serait censé ressembler à une patte d'oie, ce que je trouve pas forcément toujours très évident. Je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, les nervures un peu, mais sinon c'est vraiment une oie un peu malade. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on en fait de ce chénopode ou kénopode là ?
Eh bien, c'est comme je disais, c'est un épinard sauvage, donc on peut le cuisiner de la même façon que l'épinard. On va pouvoir le manger en salade. Ou le cuire, le faire en gratin de différentes façons. Sachant qu'en général, il fait pas toujours des feuilles extrêmement grandes. Et quand on le cuit, il réduit beaucoup à la cuisson, comme la plupart des plantes. Donc j'ai plutôt tendance à le manger en salade. Et c'est aussi une plante qui a l'avantage de rester, les feuilles ont l'avantage de rester souples et tendres. Ce qui fait qu'on peut les récolter à peu près à toutes les périodes, à n'importe quel âge. Qu'ils soient grands ou petits, on va pouvoir récolter les feuilles tant qu'elles sont pas malades. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, de l'ortie qu'on a vu tout à l'heure ou du plantain. Le plantain va avoir tendance à être, comme beaucoup de plantes, très amer en prenant de l'âge, alors que le chénopode blanc, kénopode blanc, va rester tendre toute la saison. Donc le kénopode blanc, c'est plutôt une plante d'automne, de fin d'été. On le trouve pas au printemps. Le plantain et l'ortie, c'est des plantes qu'on va trouver toute l'année.
Allez, on continue, on va voir encore un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce que c'est que cette plante-là qui a des feuilles ovales qui font 2 cm, qui sont opposées les unes aux autres et puis qui, d'un étage à l'autre, ont l'air d'être un peu disposées à 90 degrés les unes des autres. C'est quoi ?
Alors ça, c'est du millepertuis. Millepertuis, de son nom latin, Hypericum perforatum. Qui tient son nom, millepertuis, c'est mille petits trous, mille trous. Et quand on regarde la feuille à contre-jour, on peut observer qu'elle est comme perforée de mille petits trous, d'une multitude de petits trous, qui sont en vérité pas des perforations, mais des petites capsules où la membrane de la feuille est plus fine et qui contiennent les huiles essentielles. L'huile essentielle de la plante. Donc c'est des petites capsules de produits actifs.
D'accord, ah oui, effectivement, ça se voit très bien face à la lumière du soleil. Et alors, du coup, ça se mange en salade, ça, ou bien ?
Alors non, celle-là, elle ne se mange pas. ou pas à ma connaissance. C'est plutôt une plante médicinale qui est beaucoup utilisée contre les brûlures. On va l'utiliser, on va en faire une huile la plupart du temps. Donc une huile en faisant infuser les sommités fleuries, donc les petits bouquets de fleurs qu'on récolte en général plutôt aux alentours de la Saint-Jean, à la fin du mois de juin, le 21 juin ou alentour de cette date. Donc on va cueillir les sommités fleuries, on va les faire infuser dans de l'huile et l'exposer au soleil pendant une quarantaine de jours.
N'importe quelle huile?
J'utilise plutôt de l'huile d'olive. On va plutôt utiliser des huiles qu'on peut tendance à rancir et qui supportent l'exposition à une certaine chaleur. Donc moi j'utilise l'huile d'olive parce qu'elle est commune, on peut en utiliser d'autres en fonction de ce qu'on a et de nos envies.
Donc on fait macérer ça une quarantaine de jours au soleil dans de l'huile qui n'a pas trop tendance à rancir. Puis on en fait quoi après?
Au bout de ces 40 jours, on va la filtrer et on va stocker cette huile, donc qui va avoir pris une magnifique couleur un rouge très profond, étonnamment, étant donné qu'elle a des fleurs, que les fleurs sont jaunes. Et là, par contre, cette fois-ci, on va plutôt stocker cette huile donc, qui a été filtrée à l'abri de la lumière et à l'abri de la chaleur pour la préserver de toute dégradation. Et c'est une huile qu'on va pouvoir utiliser, comme je disais, contre les brûlures. Donc l'appliquer sur un coup de soleil ou différentes autres brûlures. En sachant que c'est aussi une plante qui va être photosensibilisante. Donc qui va être très réactive au soleil. Donc il faut ensuite pas s'exposer au soleil après s'être badigeonné de cette huile. Elle est bonne contre les brûlures, mais il faut pas s'exposer au soleil ensuite.
Donc après un coup de soleil, on peut en mettre, mais il faut pas y retourner tout de suite. Ce qui est quand même pas non plus complètement fou, hein, finalement.
C'est exactement ça. C'est un peu comme on pourrait voir comme un après-soleil. Ensuite, on n'y retourne pas au soleil. Pas tout de suite, en tout cas. C'est aussi une plante qui était reconnue à l'époque pour ses vertus antidépressives, beaucoup moins utilisée depuis que la pharmaceutique est entrée dans la danse. Mais c'est une plante qu'on peut toujours utiliser à cet effet. On peut utiliser soit l'huile, soit en tisane. Il y a différentes recettes pour ces deux utilisations. Sachant qu'en tisane, parfois elle peut provoquer des réactions parfois indésirables. Donc plutôt privilégier l'huile.
Donc en prise externe. D'accord.
Enfin, en interne, non, du coup.
Ah, parce qu'en fait, tu la bois, l'huile.
Ouais. L'huile peut être donc appliquée sur une brûlure ou pour un usage, comme je disais, antidépresseur. On va plutôt la consommer en interne par petite quantité et en général de manière progressive. On va commencer par une toute petite dose, voir comment on réagit et on peut augmenter les doses progressivement.
Sachant que dans tous les cas, l'avis d'un médecin est quand même assez bienvenu, hein, n'est-ce pas?
Tout à fait, pour toutes ces plantes médicinales, il faut mieux déjà bien se renseigner avant. C'est pas valable pour le millepertuis, mais certaines peuvent être très dommageables pour les femmes enceintes ou en fonction de votre physiologie et de votre passé ou de comment réagit votre corps. Donc à prendre en compte et suivant les doses et suivant les plantes, il faut mieux quand même consulter un spécialiste avant de s'amuser avec ça. C'est peut-être simplement des plantes, mais certaines peuvent avoir des effets très puissants.
Oui, j'ai entendu dire notamment que le millepertuis, il y avait une interaction possible avec des traitements anti-VIH, donc contre le virus du sida, et qu'il y avait une contre-indication forte dans ce cas-là. Bon, on fera attention. Tiens, et ça, c'est quoi ça?
Ça, c'est la bardane.
La bardane. Alors, c'est quoi la bardane?
Alors, la bardane, c'est une plante, je dirais, c'est parmi les plantes qui fait les plus grandes feuilles de par chez nous. Pas forcément les plus grandes feuilles, mais parmi les plus grandes feuilles. Des feuilles plutôt arrondies, qu'on pourrait même dire plutôt ovales, mais très arrondies.
Moi, je dirais que ça fait presque un cœur autour de la tige de la feuille.
Ça peut faire penser à un cœur aussi, oui. Avec des nervures assez présentes, et donc je disais des feuilles très grandes. Des feuilles qui peuvent faire des fois 50-60 cm de long.
Ah, on peut faire comme un genre de parapluie quand on est un gosse alors?
On pourrait. Ça peut aller parfois jusqu'à 50-60 cm de long sur 40-50 cm de large. Donc c'est vraiment une feuille très grande par rapport à ce qu'on a l'habitude de croiser. Elle pousse beaucoup plutôt en lisière de forêt ou bord de chemin. Pour la consommer, c'est pas une plante dont on va consommer les feuilles. On va plutôt consommer le pétiole, donc ce qui relie la feuille à la terre. Donc ce pétiole qu'on va peler, qu'on peut peler et faire cuire comme des asperges à l'eau, et ensuite servir avec une vinaigrette. Donc ça c'est une des alternatives sauvages aux asperges, et qui a un goût assez doux et assez fin, très intéressant.
Donc si j'ai bien compris, ça se pèle un peu comme la rhubarbe en fait, on prend que la tige.
Exactement, c'est on récolte la même partie que la rhubarbe et on la pèle comme la rhubarbe.
C'est une alternative aux asperges, mais j'ai bien entendu que tu as dit, et c'est une des alternatives aux asperges. Il y en a donc plusieurs. Est-ce que tu pourrais m'en donner d'autres?
Y a beaucoup de plantes sauvages qui peuvent se substituer aux asperges. Il y a le tamier qui se récolte, les jeunes pousses de tamier qui se récoltent au printemps. Le tamier étant une plante plutôt toxique, sauf les jeunes pousses de printemps cuites que l'on peut déguster.
Ouais, t'as pas une meilleure idée là, parce que d'un seul coup, je suis moins rassuré.
Meilleure idée, il y a la réponse en épi, qui est pour moi, pour le moment, la meilleure asperge sauvage que je connaisse, bien qu'il existe la véritable asperge qui pousse à l'état sauvage. Là, on parle plus de substitut d'asperge, donc rien à voir avec une vraie asperge, mais qui se déguste de la même façon. Donc la réponse en épi, qui se cueille au printemps, qui a un goût très fin, qui peut se manger aussi bien cru que cuite. Voilà, comme des asperges, avec une petite vinaigrette, c'est excellent.
Il me semble me souvenir que j'ai déjà vu des gens manger des pousses de houblon aussi, où on m'avait dit oui, c'est un substitut aux asperges, ça te dit quelque chose?
Oui, exactement. Il y a les pousses de houblon que j'ai pas encore eu le loisir de goûter, n'en ayant pas trouvé dans mes différentes balades jusqu'à présent, mais très curieux de cette plante.
Donc cette bardane, on mange la tige en la pelant, on la cuit, après on les met en vinaigrette ou quelque chose comme ça, et puis
Exactement.
il y a d'autres manières de faire?
On peut aussi manger, ça j'ai pas encore essayé, mais c'est une de mes prochaines recettes à tester, la racine de banane frite, qui est apparemment riche en amidon et très bonne, du coup je pense assez relativement proche, si on peut dire, de la pomme de terre ou de ce genre de légumes.
Un peu comme les salsifis ou les scorzonères.
Probablement à voir. Je vous en dirai plus quand j'aurai testé. Et j'ai appris récemment aussi qu'elle se fait en gratin. Donc, apparemment, c'est une racine qu'on peut vraiment utiliser de différentes façons.
Super. Allez, on continue. Loin du micro, Timothée Jeannotat vient de dire: Ah, on peut se faire le pissenlit parce qu'elle est quand même cool. Alors, pourquoi elle est cool, cette plante?
C'est une plante très intéressante parce que elle est entièrement comestible par rapport à d'autres plantes où on va plutôt privilégier les feuilles, les fleurs, la racine. Le pissenlit, donc on l'emploie beaucoup au début du printemps. Les jeunes feuilles qui n'ont pas encore développé d'amertume sont consommées en salade. C'est une recette traditionnelle. Traditionnellement, les paysans et les familles allaient cueillir les pissenlits quand ils sortaient gentiment de terre pour s'en faire des salades abondantes. Parce que le pissenlit, je pense que tout le monde le connaît. Il pousse un peu partout et parfois en quantité non négligeable. Donc, comme je disais, c'est une plante qu'on peut consommer en salade plutôt quand elle est jeune et plutôt au printemps. Ensuite, elle reste comestible, mais elle développe de l'amertume. Donc voilà, encore une fois, c'est une histoire de goût. Certains vont aimer supporter, pour d'autres, ça va être insupportable. Donc c'est à tester et à composer avec. Ensuite, on peut utiliser les fleurs pour décorer des salades. Les fleurs sont aussi utilisées pour faire ce qu'on appelle le vin de pissenlit, qui est une macération de fleurs de pissenlit avec du sucre, de l'eau, des agrumes. Qui vont fermenter et faire une boisson gazeuse et très légèrement alcoolisée, qui peut être un très bon apéritif fait maison, sauvage et fait maison, pour étonner vos amis. Les fleurs peuvent aussi, comme je disais, décorer les salades. Les boutons de fleurs, donc la fleur qui n'a pas encore éclos, peut être conservée dans du vinaigre comme des câpres et être utilisée toute l'année pour parsemer les salades ou différents plats. En apéritif aussi, des petits câpres en apéritif, petits pickles au vinaigre. On va aussi enfin pouvoir se servir de la racine, plus étonnant. La racine qu'on va donc déterrer, brosser, faire sécher et torréfier. Donc torréfier, c'est faire chauffer sans faire brûler. On peut torréfier soit à la poêle, soit au four. En utilisant le four, par exemple, si on vient de cuire quelque chose, on enfourne ensuite la racine de pissenlit sans dépenser d'énergie supplémentaire. Donc qui aurait été séchée et coupée en petits bouts plutôt et séchée. Et une fois qu'elle a été torréfiée, on va la réduire en poudre et ça va nous faire un substitut de chicorée, étant donné qu'elle appartient à la même famille que cette plante, que la chicorée. Une utilisation qui peut prendre du temps, mais qui est, je trouve, intéressante à essayer au moins une ou deux fois.
En tout cas, les poules ne s'y trompent pas. Dès qu'on leur jette un pissenlit, elles se battent pour te dépiauter ça à vitesse maximale. Le pissenlit, ça doit être une plante excellente.
Et comme son nom l'indique aussi, pissenlit, c'est une plante diurétique. Pissenlit qui peut être lié aussi à sa couleur jaune. Il y a toute une science, disons, qui est liée à la forme et aux couleurs des plantes, ce qu'on appelle la médecine des signatures, qui, en l'occurrence, pour le pissenlit, c'est la couleur jaune, évoque l'urine et donc est une plante diurétique et détoxifiante.
Ah, bah le tournesol aussi, mais du coup, ça fait faire pipi le tournesol. Ouais, on ira voir ça de plus près une autre fois, hein. Mais pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas.
Et c'est l'air de rien, c'est une médecine qui, au final, s'avère parfois exacte. En l'occurrence, le pissenlit est réellement diurétique. Donc, hasard ou pas, c'est à chacun d'en décider.
Oula, nous arrivons doucement sur un terrain glissant, ce qui n'est pas une raison pour s'arrêter là. Nous pouvons continuer et passer à une plante suivante. Il y en a plein encore en ce début d'automne. Alors là, on s'est déplacé et on est dans des plantes sauvages comestibles, mais on est allé en direction d'un beau montage permaculturel, ou en tout cas qui relève de l'état d'esprit permaculturel, la spirale aromatique, qui constitue un montage de pierres en spirale, ce montage permettant d'avoir des milieux de vie différents pour toutes les plantes qu'on a envie d'y mettre, généralement des plantes aromatiques. Et du coup, tu t'es arrêté devant une plante dont tu m'as dit que c'était de l'achillée, c'est ça?
Achillée millefeuille, oui. Achillea millefolium, pour les latinistes. Plante que j'affectionne pas mal. Déjà parce qu'elle est très fréquente et facile à reconnaître, ce qui en fait une plante assez intéressante. Elle pousse au ras du sol en petite rosette. Elle est extrêmement découpée. C'est de là que vient son nom, millefeuille. C'est qu'elle fait comme 1000 petites feuilles. Très découpée, plus que la carotte. L'idéal étant peut-être quand même de la reconnaître avec un connaisseur avant de s'en servir. Mais voilà, une plante intéressante d'un point de vue autant médicinal que culinaire. Culinairement, on peut l'utiliser. C'est une plante assez forte en goût. Donc certains préfèrent l'utiliser plutôt comme une plante aromatique, simplement pour relever certains plats. Moi, j'aime assez bien son goût, donc j'ai tendance à pas mal l'utiliser en salade et même parfois à en faire des pestos. C'est une plante qui, au niveau médicinal, a la particularité d'être une plante hémostatique, donc qui coupe le sang. Il suffit de l'appliquer en extrayant le suc.
Donc en mâchonnant ou en l'écrasant, comme tu nous as indiqué avec le plantain contre les piqûres d'ortie.
Exactement. Donc voilà, en extrayant un peu le sucre et en l'appliquant sur une coupure, il paraîtrait même sur des coupures parfois assez fortes, assez violentes, elle a vraiment le pouvoir de couper le sang très rapidement, ce qui en fait aussi une plante parfois intéressante pour les femmes qui peuvent avoir des règles douloureuses. C'est vraiment une plante qui est liée au sang, donc même pour des saignements de nez.
Mais alors, pour des saignements de nez, on se fiche la plante dans le nez ou enfin.
On peut se mettre clairement extraire le sucre en faisant une boule avec la plante et se le mettre dans la narine concernée.
Eh ben, dis donc, si j'avais su que je me collerais des plantes mâchouillées dans le nez aujourd'hui, je sais pas si je serais venu. Bon, et on peut faire quoi d'autre avec cet Achillée, Achillée millefolium?
Ce que j'oubliais de dire aussi, c'est que du coup, on l'appelle l'herbe au charpentier, justement parce que dans l'histoire, traditionnellement, les charpentiers, avant de monter faire leur œuvre sur les toits, cueillait une poignée de cette plante en prévention des éventuels bobos qui pourraient se faire au travail.
Ah oui, là, c'est pas se la mettre dans le nez, ça peut sauver des vies.
Sauver des vies, je pense qu'en situation sans accès à d'autres ressources, elle peut vraiment... elle pourrait sauver des vies, oui. Et elle a dû en sauver plus d'une.
Ça se mange par ailleurs, parce que moi, je suis plutôt gourmand. J'avoue, je ne suis pas charpentier. Je suis plutôt à boulotter ce que je trouve pour le délice. Ça se mange.
Comme je disais, oui, je la prépare en pesto ou en condimentaire sur différents plats. Apparemment, elle se marie assez bien au poisson aussi. J'ai jamais essayé, étant donné que je ne mange plus de poisson, mais
ouais, moi non plus.
Mais voilà, ça peut être une de ses utilisations. Sachant que c'est une plante très forte au goût, donc certains aiment, d'autres pas. C'est un peu comme toutes les plantes sauvages ou comme tous les légumes en général, ça dépend de chacun.
Ça, c'était l'Achillea millefolium. Voilà qui clôt notre première balade autour des plantes sauvages comestibles. Il y en aura probablement d'autres. Merci beaucoup, Timothée Jonathan, de nous avoir accompagnés en ce début d'automne à la découverte de ce qui peut se manger autour de nous en cette saison.
Merci.
Et à bientôt.
À bientôt.
C'est la fin de ce numéro de Acte 2, une balado-diffusion de l'association du Passage à l'Acte par Flo M. Sève. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avance de partager ces sons avec les gens qui vous entourent, de les faire circuler largement, car nous refusons l'industrie de la publicité, nous préférons, et de loin, la réputation que vous nous faites. Pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous commander des formations, des conférences ou des animations, nous faire un don et bien sûr guetter nos prochaines publications. Rendez-vous très bientôt sur apsala.org, onglet podcast, texte ou formation.